IDFM Radio, le média valdoisien.
IDFM Radio, aujourd'hui, nous rencontrons plusieurs acteurs, réalisateurs, plusieurs grandes et petites mains qui ont travaillé sur Les Légendaires, qui sortira dans quelques jours. Il y aura aussi une avant-première qui sera organisée en Yenne-et-Bains dans le cadre du festival Le PIDS, le festival des effets spéciaux, le samedi 24 janvier à 14h. Et déjà, dans un premier temps, je suis avec Patrick Sobral. Bonjour.
Bonjour.
Auteur de bande dessinée et notamment créateur des Légendaires. Nous sommes aussi avec Guillaume Hivernel, qui est réalisateur de ce film d'animation, qui a été réalisateur aussi sur d'autres films d'animation. Je vais en citer un comme ça au hasard, Chasseur de Dragons. Bonjour.
Bonjour.
Merci en tout cas de nous accueillir dans ce lieu magique, spectaculaire. Nous sommes au musée Cluny. Pourquoi vous avez choisi justement cet endroit pour présenter ce film d'animation ?
Alors, on l'a pas spécialement choisi nous, c'est plus la production, mais je sais que c'est pour le côté historique du musée, lié par endroit à la chevalerie qui est un élément central de l'univers des légendaires, puisqu'il s'agit d'un monde d'heroic fantasy dans lequel on retrouve justement tout cet imaginaire, toute cette histoire faite de légendes, de créatures mythologiques et d'aventures. Donc le musée Cluny semblait adapté à la promotion du film.
Vous êtes bien, vous êtes content, vous découvrez finalement ce musée aussi, vous ?
Alors, effectivement, moi, pourtant, je suis parisien, j'étais jamais venu, et ça a été un peu ça a été quelque chose de fantastique. Vous pouvez couper après ?
Oui, vous inquiétez pas, bon. Puis c'est naturel aussi.
Hein. Ok.
Ça fait quand même quelques heures que vous êtes là, je suppose.
Vrai. Hein. C'est vrai, ouais. Que ça fait quelques heures, et c'est vrai que le musée est complètement adapté à l'univers des légendaires, même si moi, ce qui m'a plu dans les légendaires, c'est qu'il y a plein d'univers très différents, dont une partie est effectivement très médiévale.
C'est qui un petit peu le chef dans les légendaires ? C'est justement ce chevalier Danaël qui dirige en quelque sorte un petit peu tout le monde ou pas ? Comment vous avez conçu cette histoire à la base ? Vous avez créé ce personnage dans un premier temps et après les autres sont nés ou pas ?
Alors non, tout est venu un petit peu en même temps, parce que même s'il est vrai qu'il y a un chevalier, donc le personnage de Danaël qui est le chef de l'équipe, parce que dans une équipe il faut quand même un chef, hein, j'ai jamais voulu qu'il soit mis en avant. Ce qui a été l'une d'ailleurs des première source de, pas de conflit, mais d'interrogation avec les éditions Delcourt, qui, elles, souhaitaient qu'un personnage soit mis en avant et que la BD s'appelle Danaël et les légendaires. Moi, je voulais pas. Je voulais que chaque personnage ait vraiment la même importance, même s'il y a un chef. Et c'est pour ça qu'en général, chaque diptyque, tous les deux tomes, à chaque nouvelle histoire de la BD, on met en avant, enfin, je mets en avant, pour le coup, un nouveau personnage, et je m'attarde sur son passé, sur son vécu, et qui explique ce qu'il est devenu jusqu'à présent. Mais c'est une équipe avant tout.
Vous vous éclatez depuis 2004, hein, je crois, hein, la naissance, la première BD des légendaires. On est en 2025. Il y a un nouveau tome aussi qui sort le 29 janvier, je crois. L'avant-dernier était sorti en novembre, avec des sous-titres, puisque chacun des héros de cette BD a aussi plus ou moins ses propres aventures.
Alors, la série principale, elle est terminée depuis maintenant 5-6 ans, mais à côté de ça, j'ai développé avec des artistes, des collègues, des amis, des spin-offs, ce qu'on appelle des spin-offs, donc des séries dérivées, et il y a 6 autres séries des légendaires maintenant qui paraissent, qui continuent à propager, à étendre l'univers des légendaires, chacune ayant sa propre histoire, son propre univers, puisqu'il y a des séries préquelles qui se passent des fois un siècle avant la série principale, mais il y a également des suites comme Les Légendaires Résistance, qui elles racontent au contraire le futur des légendaires avec une nouvelle génération de héros, ou tout simplement Les Légendaires Parodia, qui parodie elle-même l'univers des légendaires. Donc plein de séries qui étendent l'univers des légendaires, mais à chaque fois dans une direction différente.
Donc dans une vingtaine d'années, on sera encore là pour découvrir Les Légendaires dans nos salles de cinéma. Là, c'est le premier, et comme il y a tellement de BD et d'histoires à raconter, Guillaume Hivernel a du pain sur la planche, non ?
Alors ben ça, c'est surtout Guillaume à qui il faut demander, parce que moi, je suis instigateur du projet au départ, mais c'est Guillaume qui a eu la lourde tâche d'adapter ça au cinéma, et ça n'a pas été une mince affaire pour le coup.
Guillaume, ça a toujours été un petit peu en vous, l'animation. Racontez-moi un petit peu votre parcours, votre histoire.
Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours adoré l'animation. J'ai commencé à regarder les premiers films d'animation japonais avec mon père quand j'avais 5-6 ans. Paradoxalement, moi, j'ai jamais fait d'études d'animation parce que je pensais que je serais jamais assez bon pour travailler dans ce métier. Et quand je faisais mes études de dessin, je me disais, si un jour je peux avoir un ou deux décors dans une série d'animation, ce serait vraiment génial. Quant au légendaire, bah, 1h30, c'est court. Donc, j'ai plein d'idées, plein de choses que j'aimerais bien raconter. Donc, j'aimerais bien peut-être faire une suite. Alors, on y travaille. Patrick est en train de travailler avec l'auteur Antoine Chomsky sur un 2, parce que, en fait, ce que j'avais dit au producteur, et surtout Nathalie Gasteldo, la productrice, c'est qu'en fait, le scénario, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cher, mais c'est ce qu'il y a de plus compliqué, de plus long à faire. Donc, je lui ai dit, commençons à écrire quelque chose. Quand on va fabriquer le premier, si le premier marche pas, ça s'arrêtera là. Par contre, si le premier marche, on peut directement partir sur un 2. Elle a accepté, et donc le scénario du 2 est en cours d'écriture. Et moi, c'est vrai que je viens de finir celui-là, mais je serais ravi de me replonger encore dans l'univers des légendaires pour un autre film.
Et votre rencontre ? Qui a tapé à la porte de l'autre ? C'est Guillaume qui est venu vers vous, Patrick, ou
Alors, au départ, c'est la productrice, Nathalie Gasteldo, qui a été initiatrice du projet, puisque c'est elle qui est venue à la rencontre de mon éditeur, Guy Delcourt, des éditions Delcourt, et qui, par une heureuse circonstance, il se faisait que j'étais là-bas, au siège des éditions Delcourt ce jour-là, et Guy Delcourt m'a dit, viens voir, il y a quelqu'un qu'on voudrait te présenter. Il s'agissait de la productrice qui m'a fait part de son envie d'adapter les légendaires au cinéma. Alors au départ, plutôt pour une adaptation en live action avec des vrais acteurs, mais très vite on a écarté le sujet. Pour moi, c'était absolument pas viable de cette façon-là. Mais un film d'animation.
Peut-être plus tard par la suite.
Non, même pas. Je trouve que mon univers, tout n'est pas adaptable. Hein. On n'a qu'à voir ce qui s'est fait avec Dragon Ball, par exemple. Tout n'est pas adaptable en film action. Il faut savoir où sont les limites de chaque œuvre. Et mon œuvre, si elle doit être adaptée, c'est au cinéma. En film d'animation et très peu de temps après Guillaume Hivernel donc est arrivé sur le projet en tant que réalisateur attitré pour adapter cette BD. Ouais.
Sur quoi vous êtes parti finalement, parce que les légendaires, on vient de le dire avec Patrick, c'est assez large aujourd'hui, c'est très étendu, il a fallu éventuellement imaginer de nouveaux personnages ou pas, partir de la première BD, mélanger d'autres histoires, comment ça s'est passé?
Alors je vais laisser Patrick parler de cette partie-là, parce que moi, en fait, quand tout ça s'est décidé, j'étais pas encore là. Je suis arrivé 1 an et demi, 2 ans après qu'ils aient déjà commencé le scénario. Ce qui avait été évoqué à l'époque, tu m'arrêtes si, c'est qu'en fait, en temporalité, c'est à peu près sur les 2-3 premiers albums. Mais par contre, c'est une histoire originale avec beaucoup de personnages originaux. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien, parce que c'est ce qu'on s'était dit par rapport aux légendaires, ce qu'on voulait faire, c'est une nouvelle proposition de cet univers des légendaires en 3D et en long métrage. Donc en même temps, ça suit la BD et en même temps, c'est quelque chose d'autre encore.
Alors les légendaires, on peut le dire très rapidement, je ne l'ai pas encore dit, mais ce sont des adultes à la base. Et là, il y a un sorcier qui arrive, qui chamboule tout, qui veut casser la baraque. Et donc du coup, les légendaires d'adultes vont passer dans la peau d'enfants. Est-ce que ça existait déjà dans une des BD ?
Oui, c'est la base même de l'univers de la BD. Hein. C'est-à-dire que les légendaires, c'est un groupe de héros. Pour faire une comparaison, c'est les Avengers de leur univers. C'est des super-héros de leur monde, mais adultes au tout départ. Et ce sont des héros adorés par la population. Ce sont voilà, ceux qui luttent contre le grand sorcier Darkel, le sorcier maléfique qui veut conquérir le monde. Et lors d'une ultime bataille, très bizarrement, ça commence par le combat final. Les légendaires brisent par accident une pierre magique. Et cette pierre magique rajeunit toute la population, et pas seulement eux, mais toute la population de la planète en enfants. Et pour l'éternité, c'est-à-dire qu'ils ne vieillissent plus, plus aucun adulte n'existe dans le monde, et du coup les légendaires sont détestés pour ce qui s'est passé, la population les juge responsables de cet accident, et du coup les légendaires passent de héros adorés à des parasites conspués par la population, et malgré ce fait-là, ils vont décider de se reformer une dernière fois, puisqu'ils se sont séparés suite à leur gaffe, ils décident de se reformer pour trouver un moyen d'inverser la malédiction. Donc ça, c'est la base de l'histoire de la BD. Elle a été reprise, mais un petit peu changée pour les besoins du film. Donc c'est à partir du moment où les légendaires se reforment, je dirais, c'est déjà une autre histoire dans le film, et on propose justement quelque chose de nouveau qui saura à la fois plaire aux fans et aux novices qui ne connaissent pas l'univers des légendaires, puisque ça sert également d'introduction à l'univers des légendaires.
C'était ma question, effectivement. Moi qui connais un tout petit peu les légendaires, mais pas plus que ça, ou même une première personne qui va découvrir le film le 28 janvier prochain dans les salles de cinéma, n'a pas forcément besoin de se plonger dans les différentes lectures des légendaires.
Non, ça aurait été une erreur de destiner du coup le film qu'aux fans, parce que même s'ils sont très nombreux en France et dans le milieu francophone, c'est une BD qui est complètement inconnue sur le marché étranger, et le film, on le destine à un public international. Donc il fallait que la majorité des gens qui regarderont le film puissent le comprendre sans avoir jamais lu une page de la BD. Donc en ça, c'était presque l'argument prioritaire, qu'il soit accessible à la fois aux fans et aux non-fans.
Guillaume, vous avez du coup dessiné où? Vous avez vos propres studios maintenant depuis quelques années. Tout s'est fait où principalement au niveau de la production des légendaires?
Alors en fait non, j'ai pas du tout mes propres studios, peut-être un jour, mais en tous les cas j'ai travaillé avec deux studios pour toute la fabrication du film, qui sont les studios 2 minutes et les studios Drumoll en Belgique. Et en fait on s'est partagé, ils se sont partagés le travail, c'est-à-dire que tous les décors ont par exemple été faits en Belgique, toute une partie de l'animation en Belgique, il y a eu et 2 minutes à des antennes à Angoulême, dans l'île de la Réunion et à Paris. Donc ça s'est mélangé entre tous ces endroits-là, avec toujours la crainte que ça matche pas forcément, les éléments matchent pas forcément les uns avec les autres. Et là je dois dire que j'ai eu des super équipes et qui se sont beaucoup parlé, et ça a permis d'avoir un film homogène, parce que par exemple les personnages qui ont été faits à Angoulême avec des textures à Angoulême et les décors qui ont été faits en Belgique, si les textures n'avaient pas matché les unes avec les autres, ça aurait donné quelque chose de très bizarre, et là c'est pas le cas justement.
Merci beaucoup. Dans quel pot vous vous voyez parmi les différents légendaires? Ils sont 5. Quel est celui qui vous correspond le plus, Patrick?
On me pose souvent la question, moi je dirais aucun. Alors physiquement, je ressemble sans doute plus à Razia parce qu'il a de l'embonpoint comme moi. Mais sincèrement, je me suis jamais retrouvé dans un de mes personnages. Quand j'ai créé un personnage, je crée les personnages qu'il faut pour agrémenter l'histoire.
Suivre
quoi.
Les étoiles.
C'est Roman qui vient nous chatouiller un peu.
Légendaire.
Je vous présente Danaël qui vient nous rejoindre.
Voilà. Qui prête sa voix personnage. Et vous, Guillaume, un personnage qui vous collerait plus à la peau parmi les différents?
Moi, j'aime bien le personnage de Griff. Parce que je sais pas, c'est celui qui me touche le plus, je pense.
Million, ça vous va parfaitement.
Ça, exactement.
Moi personnellement, je préfère vraiment le personnage de Danaël parce que c'est le plus stylé, c'est le voilà,
c'est le plus cool,
c'est le héros quoi, c'est quand même lui la star.
C'est le chef.
C'est le chef et c'est lui qui rassemble les légendaires. Enfin, je veux dire, sans lui, on n'en serait quand même pas là. Donc voilà, clairement Danaël au-dessus, team Danaël.
Ouais. Bah merci beaucoup à vous trois. On n'a pas parlé de la musique qui est très importante aussi avec Cécile Corbel.
Ouais,
voilà, la célèbre chanteuse harpiste. Ouais. On en reparle de toute façon très vite sur IDFM Radio. On écoutera aussi des musiques de ce film d'animation. On rappelle le samedi 24 janvier. Vous venez à Enghien-les-Bains, Guillaume Hivernel, pour présenter ce film Les Légendaires à 14h au Centre des Arts dans le cadre du festival Le PIDS, le festival des effets spéciaux. À bientôt. Bonne continuation à tous
merci
les deux
beaucoup.
Et vive Les Légendaires.
C'est gentil. Merci à vous, légendaires unis un jour, légendaires unis toujours!
Les Légendaires, on continue à parler de ce film d'animation le 28 janvier dans toutes vos salles de cinéma. Et cette fois-ci, nous sommes avec deux voix. La voix de Griff avec Antoine Chmounski. Je m'en doutais, c'était à prévoir. Bonjour, enchanté.
Bonjour, c'est Antoine Chomsky.
Chomsky, bon, voilà. Et c'est Roman Dodwig donc, qui rigole à côté et qui lui prête sa voix à Danaël, qui est le célèbre chevalier des Légendaires. Merci d'être avec nous, bonjour.
Bonjour, merci de nous accueillir, enfin, merci d'être là.
En tout cas, là, on est dans un cadre super hein, pour présenter ce film d'animation. Première question très simple, très basique. Est-ce que c'est une BD que vous avez un peu lue, vue ? Vous avez déjà entendu parler de ces légendaires avant de prêter ? Alors vous, oui, puisque vous avez travaillé aussi en plus d'être la voix scénariste. Mais Roman Dodwig, est-ce que toi, tu connaissais déjà un petit peu l'univers, la BD, les légendaires ?
Je connaissais de réputation parce que... De toute façon, si vous avez été dans un CDI en France les 25 dernières années, vous avez vu passer une BD des Légendaires. C'est dans toutes les bibliothèques, c'est partout. Et j'étais un petit peu passé à côté, donc j'ai découvert en travaillant sur le film. Et ce qui m'a surpris, c'est le rapport des gens à cette franchise, à cet univers, où il n'y a que deux options. C'est soit tu ne connais pas, ou tu connais vite fait, t'en as entendu parler, soit tu connais, auquel cas tu es un fan hardcore. Il n'y a pas de demi-mesure. Les gens adorent ou ne connaissent pas, donc maintenant je connais, maintenant j'adore.
Le Moyen-Âge, ça te parle aussi ? On est un petit peu dans cette ambiance chevaleresque. Est-ce que tu étais bon en histoire ou pas ?
Alors moi, j'étais particulièrement en histoire. En plus, les gens ne le savent pas, mais moi, j'ai fait 2 ans de master d'histoire.
Ouais, je pense qu'il est en train de dire de la merde. Mais
je sais pas, il dit ce qu'il veut.
Non, parce que sinon, on aurait engagé Laurent Deutsch, hein, tu sais, pour faire le film, mais c'est pas le cas.
Bon, il avait envie un petit peu de déconner.
Ah, oui, un truc incroyable, c'est que les Mérovingiens en 1493 avaient pris d'assaut. C'est une très mauvaise imitation. Bien sûr, l'histoire, c'est passionnant. Là, en plus, on a la chance d'être au musée du Moyen-Âge. Bon, là, vous le voyez pas parce que c'est de la radio, mais en vérité, c'est incroyable. Très, très, très beau musée.
Tu disais le Moyen-Âge.
Le Moyen-Âge.
Non, mais le Moyen-Âge, est-ce que c'était quelque chose qui te passionnait ou pas du tout ?
Moi, je trouve ça beaucoup plus passionnant quand des artistes aujourd'hui décident de mélanger le Moyen-Âge avec des éléments plus de science-fiction. C'est ce qu'on appelle le steampunk. Et je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est une grosse inspiration steampunk, n'empêche... Pour Guillaume, pour sur les légendaires. Mais c'est incroyable parce que t'as à la fois une ambiance médiévale et en même temps, tout d'un coup, des aéronefs, de la magie. Enfin, c'est un peu tout ce mélange. Moi, ça me rappelle... j'ai grandi avec le donjon de Nullbuck, j'ai grandi avec Reflet d'acide, le Seigneur des Anneaux. Tout ce mélange d'univers, tu sens beaucoup d'inspiration et en même temps, Patrick a réussi à créer quelque chose de complètement unique avec des personnages extrêmement attachants. C'est super.
Oui, on est un peu dans la fantasy, comme l'a dit Roman, Seigneur des Anneaux, science-fiction, un petit peu toutes ces influences. Tu as été aussi, toi, bercé par tout ça étant donc scénariste de ce film légendaire.
Oui, je suis né dans les années 80, donc j'ai grandi avec L'Histoire sans fin, Willow. Après, j'ai lu très vite Bilbo le Hobbit.
C'était qui le président quand t'es né ?
Je crois que c'était Mitterrand encore. enfin, le Moyen-Âge, du coup. donc moi j'ai grandi avec ça, et puis c'est des films que j'ai adoré. Donc là, l'opportunité de faire un film d'heroic fantasy, je réalise un peu un rêve de gosse, ouais.
Et de mélanger donc cette voix avec le travail de scénariste aussi, c'est une première, de donner de la voix à un personnage qui s'appelle donc Griff, qui est mi-homme, mi-lion. Est-ce que c'était décidé d'avance ou pas du tout ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il manquait une voix ou non ?
Il se trouve que j'ai une carrière qui fait que je suis un petit peu partout. Je suis au théâtre, au cinéma, en doublage, en musique. Et les voix, j'en fais beaucoup depuis très longtemps. Donc c'est un exercice que je connais bien, et il se trouve que à force d'écrire le film, j'ai fait ce qu'on appelle les voix témoins. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu technique, mais quand on fait un film d'animation, il y a une phase de production où on fait des dessins, le storyboard, et après on fait un animatique, c'est-à-dire qu'on anime le storyboard. On en fait un peu comme un mini dessin animé en noir et blanc, où on commence à voir un peu à quoi va ressembler le film, et donc on fait des voix témoins, c'est-à-dire qu'on va pas demander à tous les acteurs de venir, donc c'est moi qui fais avec Sinonté quasiment toutes les voix du film. Et à force de travailler ça, et puis même en écrivant, Griff était déjà un des personnages que je préfère. préféré, bah, je lui ai trouvé cette voix, cette manière d'être, et puis qui a plu au réalisateur, qui a plu à la production. Donc au moment des castings, on m'a dit passe-le, finalement c'est pas si loin de ton élément. Donc j'ai passé le casting et puis voilà.
Tu as travaillé aussi en 2022 par exemple, juste pour citer les Bad Guys. Ouais. C'est pas que ça y ressemble, c'est totalement différent, mais il y a un rythme quand même qui est très très soutenu aussi dans les légendaires qu'on retrouve aussi dans les Bad Guys.
Tu fais la voix dans les Bad Guys?
Je fais le professeur Marmelade, je fais le méchant dans les Bad Guys. Oh. Et qui est aussi dans les Bad Guys 2. Bah, en fait, en général, j'ai une diction assez rapide. Quand on m'engage en tant que comédien, c'est souvent pour des personnages qui sont très vifs, très dynamiques, qui aiment bien faire plein de ruptures. Puis c'est ce que j'aime bien jouer aussi. Donc oui, le méchant des Marmelade ou Griff, ils ont ce truc de parler vite. Voilà, il est un petit peu au taquet. Mais Griff est beaucoup moins malsain que le professeur Marmelade.
Donc le chevalier, il a fallu se mettre dans une posture particulière au moment du doublage. Est-ce que tu peux nous raconter très rapidement comment ça se passe? Une demi-journée et c'est plié, ou faut sur plus d'une semaine venir à plusieurs reprises pour prêter sa voix au personnage d'Anaël?
Alors pour Anaël, je crois qu'il s'agit de 2 ou 3 jours de doublage. Moi j'arrive en côte de maille tous les jours, donc ça faisait très lourd. Il y avait à peu près 25 kilos de costumes.
J'ai senti qu'on voulait énormément.
Parce que j'ai gling 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 dans tous les sens, mais c'est important pour moi pour vraiment ressentir le personnage. Non, plus sérieusement, le chevalier à l'épée d'or d'Anaël, c'est un héros au sens premier du terme. C'est le héros qui va porter l'aventure, qui va réunir ses amis, qui, quand il va être emballé, il va être très emballé. Quand il va être triste, il va être très triste. Il vit des choses très intensément, très premier degré. Il se bat avec toute la haine de la terre pour essayer de combattre le mal et faire triompher le bien. Et c'est parfois un peu exaspérant. Et en même temps, il y a une telle douceur. Enfin, moi, c'est tous les héros de mon enfance, presque. C'est Harry Potter. C'est Peter Parker, j'en ai trouvé en deuxième entre la première interview et la deuxième. C'est le héros que j'aurais voulu être quand j'avais 10 ans, et je pense que Daniel aussi, il veut être un héros. Il veut réunir les légendaires, il veut refaire le bien, et je pense que ça, c'est une idée qui est profondément enfantine, enfouée en moi, l'envie de réunir les gens pour se battre contre les causes perdues.
Donc, est-ce qu'il y a une petite difficulté particulière, parce qu'à la base, ce sont des adultes, et puis là, il y a un maléfice, donc du coup, il se retrouve enfant, donc faut jouer aussi avec les deux.
En fait, ça veut dire qu'on doit tout de même utiliser des voix qui sont assez jeunes, assez fluettes même parfois. Je suis allé très rarement dans les graves pour ce personnage, et en même temps, il y a une profondeur chez ces personnages qui sont aussi bourrés de névrose et d'Anaël par exemple, qui porte la culpabilité d'avoir brisé la pierre de Jovenia et qui a créé justement ce maléfice où tout le monde dans le film a des apparences des gamins de 10 ans. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité, qui a vraiment peur qu'on l'aime pas, et moi c'est des choses que j'ai de toute façon ancrées en moi depuis l'enfance. Donc moi déjà enfant, j'étais déprimé, névrosé, avec la culpabilité et la peur qu'on m'aime pas. Donc là pour le coup, j'ai vraiment pu mettre de moi-même dans ce personnage.
Tu as cité beaucoup de films, mais des films
de...
Seigneur des Anneaux, Harry Potter, voilà, mais les films d'animation, tu es plus proche de films ou de films d'animation? Tu as dû voir des classiques Disney ou autres, les films d'animation aussi, tu en as regardé beaucoup étant plus jeune, même si tu es encore jeune.
Ah mais j'ai pas arrêté, hein. Le film d'animation, c'est une des parties du cinéma que je préfère parce que il y a une grande liberté, et puis surtout quand on s'adresse à des enfants, particulièrement, c'est aussi la façon d'être le plus universel possible. C'est-à-dire que quand on arrive à, c'est sérieux, un enfant, pour réussir à transmettre des choses, à transmettre des émotions, il faut aller chercher dans les choses les plus universelles, les plus simples, et donc parfois aussi les plus durs. Un des films d'animation qui m'a beaucoup touché, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que c'est un personnage, il y a différents niveaux de lecture. Quand on le redécouvre à 20 ans, c'est pas la même chose que quand on le voit pour la première fois à 6. À 6 ans, voilà, on a un peu peur, et en même temps il y a des chansons, et en même temps il y a un univers qui est rigolo. Et puis à 20 ans, on se dit ah putain, en fait ça raconte l'histoire d'un mec qui en a marre d'être cantonné à un rôle, qui a envie de plus loin, et en même temps il sera toujours exclu de la société parce qu'il est de toute façon bizarre, il fait de toute façon peur, et il sera toujours comme ça. Et là on découvre le sous-texte qu'on peut y mettre, le racisme, l'exclusion, le fait d'être différent, d'être handicapé, le fait de pas pouvoir être accepté par une partie de la société et du monde parce qu'on est différent et qu'on le restera toujours, mais que ça empêche pas de rêver, ça empêche pas de vouloir adapter le monde. Si le monde veut pas de soi, on a qu'à changer le monde. Enfin vous voyez, ça c'est des choses qu'on peut trouver dans des films pour enfants, et c'est ça je trouve la beauté du film d'animation. Et si on a pu perpétuer ça en faisant un film qui parle notamment, mine de rien, du danger climatique et de la montée des dictateurs, Si en faisant tout ça, un enfant peut avoir peur du méchant, peut être touché par les enjeux du film, ça veut dire qu'on transmet quand même quelque chose.
En vrai, des fois, les méchants sont gentils aussi.
Parfois, les tout bon méchant a un fond de...
Un passé assez compliqué, donc du coup, voilà.
Bien sûr.
Je regarde le passé de Donald, mais... Ouais.
Quel est le passé de Trump?
Cécile Corbel, vous l'avez rencontré, vous, parce qu'avec Roman, juste avant qu'on démarre l'interview, il écoutait déjà en boucle la chanson principale de ce film d'animation. Cécile Corbel, chanteuse, harpiste, qui a fait ce choix, en fait? Comment vous vous êtes concerté? Comment vous l'avez rencontré? Elle qui a travaillé aussi avec les studios Ghibli il y a quelques années.
Bah ça, je sais que c'est le réalisateur, et sans se concerter, Patrick et Guillaume, en fait, avaient déjà un peu ça en tête. C'est-à-dire que Patrick était fan de Cécile Corbel déjà depuis quelques années, et Guillaume avait justement une volonté qui est un ton très particulier pour ce film, parce que les musiques de film, ça peut vite se noyer dans une grande masse de musique qui se ressemblent un peu toutes, et là il voulait une couleur un peu médiévale, justement, des sonorités que fait magnifiquement Cécile. Donc c'est par hasard, ils se sont dit, ah ben moi j'aimerais bien, ils ont sorti le même nom en même temps, donc voilà, c'est comme ça que Cécile s'est retrouvée sur le projet.
Et prochain projet pour toi, prêter ta voix à un autre personnage, c'est dans les tuyaux, c'est la même question pour Roman aussi dans un instant.
Alors, je peux rien dire, mais j'ai un énorme truc, un énorme film, mais je ne peux absolument rien dire, où je suis très très content.
Les Ch'tis 2, ça y est, ça sort enfin.
En tant que scénariste, je prépare le prochain Lucky Luke en film d'animation, ça je suis très content, c'est dans les tuyaux, je fais ça avec Bernard Campan, donc voilà, je réalise un petit rêve de bosser avec un des inconnus. Et en voix, je fais beaucoup de trucs, et des fois je sais même plus les titres, parce que moi j'ai les noms de code, tu sais, au stade où j'en suis, c'est pas les noms officiels. Et j'ai tellement signé de clauses de confidentialité que je peux rien te dire. Mais ça va être super.
Bon, on espère, on attend ça très vite. Et Roman, ça donne envie de prêter sa voix à d'autres personnages. Il y a un spectacle qui se prépare, il y a l'écriture d'un livre, il y a quoi aussi après les légendaires?
Après les légendaires, écoutez, il y a un nouveau spectacle qui sort à partir de mars en tournée dans toute la France. Vous venez me voir sur scène parce qu'il n'y a rien de mieux que le spectacle vivant. C'est trop bien, j'adore rencontrer les gens, faire
des... Il sera avec son armure de chevalier.
Bien sûr, j'arrive sur scène en côte de maille, ça va être
32
spectacles sous 25, à Avignon, ça va être incroyable, dans une salle pas climatisée, c'est incroyable. Mais aussi une série, la première série verticale de France Télé, qui s'appelle Putain de soirée, que j'ai eu la chance d'écrire, et dans laquelle j'ai pu jouer aussi le rôle principal. C'est l'avantage quand on écrit aussi, c'est qu'on peut aussi déterminer qui on verrait bien. Tiens, qui est-ce que je verrais bien dans le rôle principal? Romain de Duquelet, je prends bien ce mec. Et ça sort sur les réseaux de France Télé / et les miens à partir d'avril. C'est la première série produite par le service public à destination uniquement des réseaux, qui a été entièrement réfléchie en vertical. On essaie de trouver de nouvelles façons de créer des histoires, de nouvelles façons de raconter des choses avec l'évolution aussi de comment est-ce qu'on écoute des histoires, comment est-ce qu'on les regarde. Et si mon Danaël a pu convaincre des directeurs de casting, voilà, j'ai envie de me faire bosser sur des petites voix, des choses comme ça, n'hésitez pas, vraiment, c'est ouvert, c'est open. Hein,
bravo, merci beaucoup à vous deux. Nous étions avec les personnages Danaël et Griff du film Légendaire sur EDFM Radio. Bonne continuation.
Merci. Légendaire
réunis un jour.
Attends, vas-y.
Ah, tu fais la première fois?
Non, vas-y.
Légendaire réunis un jour.
Légendaire réunis toujours.